et que je veux vous offrir ce matin. Alors, avant d'en venir au texte que nous allons lire ensemble, j'aimerais déjà vous poser une question. Chez moi, c'est assez naturel, mais voilà la première question. Alors, elle est même peut-être multiple, mais c'en est une. Est-ce que parmi vous, ne soyez pas choqués, hein, est-ce que parmi vous, il y a des amateurs de super-héros ? Voire de BD de super-héros, de films de super-héros. Je crois que les dernières vacances étaient bien blindées hein, au cinéma de ce genre de choses, pour ceux qui suivaient ça depuis une dizaine d'années. Hein. Alors, vous avez le droit de répondre. Hein. Voilà, il y en a qui le dit avec force, c'est très bien. J'ose le faire aussi. Bon, j'ai pas eu trop le temps, moi, d'aller voir des films récemment, mais peu importe. Alors, à tout hasard, petite question qui poursuit un peu sur ce chemin. En connaissez-vous qui soit plus ancien ? Attention, elle est un peu plus dure, hein, cette question. Des super-héros qui soient plus anciens que les personnages issus de certaines BD ou d'univers de BD type Marvel, DC Comics pour les plus connus. Hein. Est-ce que vous en connaissez des plus anciens que ces Superman, Batman et tous les autres là ? Les plus vieux, hein ? Voilà. Alors, bon, Caroline en connaît quelques-uns, ça ne m'étonne pas d'elle du tout. Alors, saviez-vous que dans la littérature ancienne, voire même très ancienne, il y avait déjà des super-héros ? Or, Hercule, c'est pas nouveau. Bon, on ne lit peut-être pas toujours la Pléiade aujourd'hui, mais peu importe. Mais il y en a même des plus vieux encore qu'Hercule. L'un des plus vieux qui soit connu hein, de la littérature, ou du moins du peu de littérature qui reste de ces époques-là, est un certain Gilgamesh. Voilà, quelques rares disent « ouais, ouais ». Bon, on a rarement lu l'histoire de Gilgamesh parce qu'elle n'est pas très longue en soi. Mais c'est un. Or, ça se veut être un héros, un ancien roi sumérien. Or, c'est le genre de civilisation qui ont complètement disparu, dont le récit se situerait il y a à peu près 5000 ans avant nous. Vous voyez, Superman, c'est un genou à côté. Bon, bref, laissons cela de côté. Mais en termes de héros anciens, il y a aussi et surtout, et vous voyez vers où je viens, les héros bibliques, dont la célébrité aussi a fait la tour du monde. Et à ce propos. Toujours une question pour vous, hein. Seriez-vous me donner au moins un nom, deux, de ces héros bibliques, voire même de ces super-héros bibliques, s'il y en a ? Samson, le mec avec les gros biscottos, là, et puis les cheveux super longs. Qui d'autre encore ? David. Qui d'autre encore ? Juste voir un petit peu, hein. On ne va pas tous les citer ce matin. Caleb. Esther. Une héroïne, merci, parce qu'on les oublierait. Il y en a d'autres. Hein. Voilà. On va pas tous les citer. Je vous ai dit, on n'en finirait pas. Et puis après, il faudrait discuter. Oui, mais celui-là par rapport à celui-ci. Mais Samson, c'est le plus costaud quand même. Hein, bref. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez eu le temps de le citer, celui qui, moi, m'avait intéressé ce matin, dans ce temps de partage. Mais il y en a aussi un autre très célèbre, qui d'ailleurs a une fin comme aucune autre, hein, ou très peu d'autres. Et d'ailleurs, qui est revenu plus tard, bien après. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Élie, merci. Élie, celui qui est appelé aussi, alors parfois dans le mot scientifique et savant, le thaumaturge, tout simplement celui qui a vécu, fait des miracles, et ben c'est sur ce dernier que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin. Ce fameux Élie, ce fameux personnage biblique, et de vous demander encore là, parce que j'ai plein de questions, hein, ben je vais bientôt m'arrêter, mais qu'est-ce qui vous a frappé dans le personnage d'Élie ? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous a frappé lorsque vous avez découvert ou lorsque vous redécouvrez le personnage d'Élie dans tout le récit biblique qui le concerne ? Ah, zut, vous ne vous rappelez plus. Oh, mais... Bon, merci pour la réponse, on va aller lire ça. Je pense que tu t'en doutais un peu, on dirait. Non, bon. Mais en dehors des côtés moins glorieux chez Élie, qu'est-ce qui vous a frappé, vous autres, alors ? Et merci pour la réponse. Ouais. Sa foi en Dieu ?
Il ne meurt pas.
Ses moqueries. Ses moqueries. Ouais. C'est vrai qu'il les tacle un peu hein, sur Mont Carmel. Hein. Il est fait là, hein, comme ça. Là. Bon, bref, je ne sais pas comment il l'a fait d'ailleurs. Rien d'autre. Il tue tous les méchants. 450 hein, quand même. Hein. Ouf. Bon, bref. Arrêtons là un petit peu la liste. De toute façon, chacun aurait son regard particulier sur ce grand personnage d'Élie. Pour autant, alors, Élie, c'est quand même dans la catégorie des héros, hein, on est d'accord. On pourrait même le placer à côté de Samson comme l'un des grands super-héros. Rappelez-vous, il a quand même fait la course devant un char. Hein. Alors, je ne sais plus entre où et où, mais les historiens, en regardant la géographie, disent que ça fait 27 km. 27 km à courir devant un char. On a du mal à se le représenter. Les chars, aujourd'hui, il n'y en a plus de ce genre, mais c'était les belles voitures rutilantes de l'époque. Autrement dit, il aurait couru devant une Ferrari pendant 27 km. Bon, j'exagère, hein, ça ne va pas aussi vite quand même. Mais voilà, Élie est de ceux-là. Et pour autant, il y a bien plus tard un autre homme de foi, un autre homme biblique, un certain Jacques, qui plusieurs siècles après l'enlèvement d'Élie, j'allais dire la mort, mais c'est difficile à dire à propos d'Élie, disait ceci à propos de lui. Écoutez bien. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Donc, fin de l'épître de Jacques. Hein. Et c'est vraiment le tout début qui m'intéresse. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Vous aussi, vous pouvez aller courir devant une Ferrari pendant 27 km et vous allez gagner la course. Plus ou moins. Hein. Honnêtement, il dit des bêtises, Jacques, non ? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il a tout faux. Élie, c'est, a priori, tout sauf un homme qui nous est semblable. Il en a quand même vu et accompli des exploits. L'épisode du Mont Carmel, il a été cité tout à l'heure. Dans l'exemple du Mont Carmel, alors ce n'est pas exactement lui qui le fait, mais il est là et le feu consume tout. Le taureau, bon, c'est une évidence. Le bois, c'est prévu pour, mais tout avait été mouillé. Alors déjà, allez mettre le feu, faites un barbecue et jetez un gros seau d'eau avant. On va voir si vous allez manger des merguez cuites ce jour-là. Peu probable. Hein. Mais voilà, et puis il n'y a pas que d'ailleurs le taureau qui est entièrement consumé. Qu'est-ce qui reste encore de consumé ? Les pierres qui a servi à l'autel. Alors là, compliqué. Et ça ne s'arrête pas là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la course devant le char du roi Achab, sur cette longue distance, etc., etc. Quand j'entends Jacques, à première vue, je pourrais dire, mais ça ne colle pas tout à fait avec ce que j'entends d'Élie dans le récit même. Et Jacques, le frère du Seigneur, celui qui a été aussi l'un des conducteurs, des pasteurs de l'église de Jérusalem, nous dit pourtant cela. C'était un homme tout à fait semblable à nous. Or, la vie d'Élie nous rappelle aussi à quel point il était cela. Un homme tout à fait semblable à nous. Alors pour le redécouvrir, je vous invite à prendre maintenant le livre des rois, le premier livre des rois même, dans son chapitre 19. Un roi 19, et nous allons aller lire les versets 1 à 18. Un récit connu qui a déjà été évoqué à l'instant même, peu avant, par Gabriel. Alors, un roi 19, les versets 1 à 18, et pour ceux qui n'ont pas la Bible ou préfèrent l'écouter dans la même version que je vais lire, c'est affiché là. Voilà ce que dit ce récit. Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Verset 3. Il se rendit alors d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert après avoir marché toute une journée. Il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop !» dit-il. « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes : « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, et l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Et dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui : « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. » Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel lui dit : Va, retourne sur tes pas, à travers le désert, jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Parole du Seigneur. Une petite question pour vous, à nouveau. Non pas que j'attends une réponse, mais pour vous inviter à réfléchir sur ce texte. Qu'apprenons-nous d'Élie dans ce récit ? D'une part, à l'image de ce que tu as dit tout à l'heure, Gabriel, qu'il est fragile, il est faillible. On entend même qu'il eut peur. Il eut peur malgré que peu avant, une victoire éclatante de l'Éternel avait été manifestée au sein du peuple. Et une victoire aussi qui était en partie la sienne, car il était le prophète qui avait manifesté la gloire de Dieu au Mont Carmel. Et Élie passe du triomphe éclatant au burn-out, pour le dire ainsi, avec les pensées suicidaires qui l'accompagnent. Cela surprend. Tant le personnage d'Élie peut nous sembler fort, capable de grandes choses en raison de sa foi et de sa consécration à l'Éternel. Mais dans ce récit, c'est une autre facette de ce cher Élie qui m'interpelle. En effet, Élie, cet homme de Dieu, cet homme de foi qui connaissait les pensées intimes de l'Éternel en raison de sa vie de prière, de sa relation particulière, forte et intime avec son Créateur. Parce que dans le début de son récit, il débarque presque de nulle part, il vient voir Akab et lui dit « sécheresse ». Bam, bim, boum, c'est fait, quoi. C'est très surprenant comme entrée en matière. Mais cela suggère que Élie connaît son Dieu, il connaît ses plans, et il vient l'annoncer en tant que prophète. Mais là, nous entendons ce même Élie dans la souffrance. Une souffrance en raison d'une solitude, et aussi sa crainte de mourir. Et tout cela, il veut le dire et le crier à l'Éternel. Et dans son premier cri de désespoir, quand il fuit au désert et qu'il s'arrête là, que dit-il ? C'en est trop ! C'en est trop ! Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. C'est violent. Nous entendons là, dans ce cri, le regard qu'Élie porte sur lui, sur son propre ministère, un regard qui l'amène à se comparer au début, certainement, de l'histoire d'Israël. Il regarde à cette autre période où le peuple d'Israël, là aussi, dans sa rébellion, lorsqu'il se trouvait en exode dans le désert, avait aussi éprouvé un notre serviteur comme Moïse. Et il dit, je pense, dans cette période qui est trouble pour le peuple d'Israël, d'un peuple qui s'est détourné violemment, qui a vu des miracles, mais n'en est pas pour autant revenu à Dieu. Et il y a conscience que les choses semblent se répéter. Et malgré la bonté, la générosité, la puissance manifeste du Dieu d'Israël au sein de ce peuple au cou raide, puisque c'est comme ça parfois que Dieu l'a appelé ce peuple, dédaigne toujours le suivre, lui, le libérateur de ce peuple. Or Élie, qui en est le premier des témoins, se sent alors comme confronté à cette situation analogue, face à un peuple qui a vu des miracles s'exercer tout au long de ce ministère déjà là, de cette pluie qui est revenue, de ce mont Carmel qui fut le signe de la victoire de Dieu sur Baal et ses prophètes. Tout cela, le peuple l'a vu, l'a su, en est pleinement informé. Et pour autant, malgré la victoire éclatante de l'Éternel et celle de son serviteur Élie, ce peuple continue toujours de ne point se tourner vers Dieu. Telle est la douleur d'Élie. Grande est sa solitude et sa désillusion. Comme il le dit, il est seul. Et il continue de se diriger dans ce désert. Il va vers cette montagne, l'Horeb. Au fait, petite question là encore. Connaissez-vous l'autre nom biblique du mont Horeb ? Alors hier, on l'a partagé. Alors, c'était une réponse semblable. Le mont Horeb, tel que je l'ai compris, c'est le mont Sinaï. Vous savez, des lieux dans la Bible changent de nom. C'est normal. Au cours du temps, nous n'habitons pas à côté de Lutèce. On est bien d'accord. Ça s'appelle Paris aujourd'hui. Ben voilà, il y a eu le Sinaï, il s'appela plus tard Horeb. Et parce que la Bible témoigne de tout cela, nous gardons les deux noms. On ne sait plus trop lequel utiliser pour nous aujourd'hui. Peu importe. Mais Élie va vers cette montagne. Le mont Sinaï, pour réemployer cet autre nom. Il s'agit bien sûr de cette montagne sainte où Dieu se révéla à Moïse, avant même de l'envoyer en Égypte. Puis c'est là aussi où il se révéla à son peuple une fois qu'il l'avait libéré. Ce fut le lieu où Dieu fit alliance avec son peuple, où il manifesta son amour et sa volonté aussi de les inviter à devenir son peuple saint. Et c'est donc sur cette montagne-là que, alors, il est difficile de savoir où Élie y va. Alors, est-ce que c'est de lui-même qu'il y va ? Est-ce que c'est sa volonté ? Est-ce que c'est Dieu qui le pousse à cela ? Ou est-ce que Dieu, connaissant Élie, le conforte dans l'idée qui était déjà là chez Élie d'aller là-bas ? C'est plutôt comme ça que je le vois. Je pense qu'il y a cette volonté chez Élie d'aller là-bas, sur cette montagne chargée de sens. Parce qu'Élie a besoin d'une réponse. Sa solitude, sa détresse, sa souffrance est si grande qu'il veut entendre Dieu. Il veut une réponse claire, lui qui est seul, seul contre tous presque. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi là ? Lui, Élie, qui connaissait ce que Dieu avait comme volonté précise, j'allais dire presque au jour le jour. Quelle est l'importance d'être là pour Élie ? Un Élie qui a besoin de secours, qui désire une réponse. J'ose la question, je ne cherche pas à l'affirmer, mais n'a-t-il pas l'envie ou le désir caché que Dieu veuille lui apporter une réponse puissante et claire, comme au temps de ce peuple qui s'était détourné de lui au désert ? C'est en tout cas ce que je perçois dans cette attente d'une réponse de la part de Dieu, d'une rencontre entre lui, l'homme de foi, et son Dieu. Pour le résumer, Élie, cet homme, ce héros de la foi, veut aller à la rencontre du Dieu puissant. Du Dieu qui est capable de jouer entre guillemets, de ses super pouvoirs, de celui qui, de sa voix, fait trembler les montagnes et s'ouvrir la terre pour engloutir les rebelles. Cela se déroulait aussi autrefois au désert, pas forcément au pied du mont Sinaï, mais c'est là qu'Élie espère trouver réponse et réconfort. Car ce n'est pas l'endroit qu'il désire trouver, c'est ce Dieu-là qu'il veut aller chercher. Il veut ce Dieu qui s'exprimait autrefois à travers une nuée ou une colonne de feu. D'ailleurs, étrangement, dans les éléments qui vont se défiler devant lui avant que Dieu ne s'exprime, ce sont exactement le même genre de manifestations. Intéressant de voir comment Dieu va essayer de lui donner une réponse, mais à contre-pied. Oui, et c'est certainement cet Élie-là qui, je crois, nous est semblable, en reprenant les mots de Jacques. Nous lui ressemblons beaucoup à Élie, et notamment pour cela. Nous sommes comme Élie, celui qui recherche ainsi Dieu après toutes ses expériences passées à ses côtés. Nous voulons entendre Dieu comme nous le souhaitons, et non pas forcément comme Dieu a désiré s'exprimer à nous. Élie n'est en rien un super-héros, l'appellation que j'avais utilisée tout à l'heure dans mes premières questions. Élie a des faiblesses, oui, et c'est vraiment le récit où on entend toute la faiblesse d'Élie. Alors, si on regarde aux super-héros, pour ceux qui les connaissent bien, je parle de ces super-héros modernes que l'on voit beaucoup dans des BD ou voire maintenant des films, vous me direz, mais Superman, il a bien sa kryptonite. Alors, ils sont tous faibles quelque part. Je ne cherche pas à pousser la comparaison trop loin, mais la faiblesse d'Élie n'est pas un facteur externe comme la kryptonite de Superman. Ce n'est pas une espèce de caillou venu du pays qui l'amène à être moins fort. La faiblesse d'Élie, sa fragilité, c'est en lui-même. C'est parce qu'il est homme. Et c'est bien cela qui nous fait dire qu'il n'est en rien un super-héros. Héros de la foi, oui, mais pas super-héros. Et dans la tourmente et la souffrance, dans les temps où nous aurions besoin d'une réponse forte, comme Élie le souhaitait là, nous aussi, nous sommes semblables à Élie. Nous ne savons plus trop entendre Dieu au quotidien. Nous sommes capables de crier vers lui et d'espérer un signe fort, et nous pensons Dieu parfois même éloigné de nous. Nous ayons presque oublié. Or, regardez au récit d'Élie, et c'est là où nous voyons à quel point ce Dieu est merveilleux. Dieu, comme pour Élie, continue de prendre soin de nous, car il est le Dieu fidèle. Il demeure toujours celui-là même qui envoya un ange nourrir Élie alors qu'il fuyait au désert. Et pour éviter toute incompréhension à propos de ce que je viens à décrire sur Élie, je tiens à affirmer qu'il ne faut surtout rien enlever à Élie. Il est et demeure un héros de la foi. Un homme de Dieu dont l'histoire fut bien sûr exceptionnelle, non pas parce qu'il était plus qualifié que quiconque pour vivre ses différents exploits. Preuve en est de ce récit. Mais parce que Dieu l'avait choisi bien sûr plus particulièrement pour se manifester à son peuple à travers lui. C'est en cela qu'il est exceptionnel. C'est Dieu qui a fait un choix particulier, ce sera toi. Et pourtant il y avait d'autres prophètes à côté. Oui, Élie n'est pas un super-héros, mais il est un héros de la foi, un homme ordinaire, qui eut le privilège de voir Dieu se manifester dans sa puissance au cours de son existence. Et ça n'est qu'un privilège. Mais il n'en est pas pour autant un super-héros. Il n'en est pas pour autant ces hommes que l'on devrait parfois regarder avec tant d'envie. Parce que le super-héros est un homme dont les qualités exceptionnelles nous feraient croire qu'il est plus fort que les autres. Or, Élie, ça n'en est pas le cas. Tout comme nous, tout comme tous les autres héros de foi que nous décrit la Bible, prenez Samson. C'est le plus proche des personnages de comiques. Hein. Le mec balèze, il chope des machins, il fait tomber toute une maison. Bon, ça finit mal pour lui quand même, là. Mais regardez à quel point il fut faible. Si nous regardons à sa personne, la même chose. Oui, Élie est un homme ordinaire semblable à nous. Parce qu'il est dépourvu de qualités exceptionnelles, il ne vient pas d'une autre planète qui nous ferait justement se dire s'il est si fort ou si capable d'eux, c'est parce qu'il n'est pas du tout comme nous. Il ne vient pas de la planète Krypton. Et revenons un peu à son récit, mais... Et regardons à ce qu'il était dans ce moment-là, où il était vraiment au plus mal. Ce qui l'amène à fuir, c'est à la fois sa peur, et elle est grande, mais aussi quelque chose qui est nourri parce que son cri n'est pas sur la peur, mais sa déception. Il est seul. Et sa déception par rapport à l'attitude du peuple après la victoire de Dieu au Mont Carmel. Il nourrissait certainement l'espoir que ce miracle allait changer tout. que ce peuple allait se convertir, ou du moins pour une bonne partie allait revenir à Dieu. Il y a eu certainement des choses, mais il ne l'a peut-être pas vu. Le récit ne nous le dit pas. Mais voilà, Élie est profondément déçu. Élie se sent encore plus seul suite à cela. Et cela lui fait surtout oublier ce que Dieu avait certainement dû déjà lui dire. Oui, dans ce sentiment profond de solitude, Élie en oublie les signes et les réponses que Dieu lui avait déjà données, non pas avec mystère, mais clairement. Et oui, Dieu lui avait déjà dit qu'il n'était point seul. Et cela d'une manière claire et sûre. Alors, nous n'avons pas été le lire, mais au chapitre 18, il y a deux récits importants. Le plus connu, celui qu'on a déjà évoqué comme ça, le mont Carmel. Cette confrontation entre différents, les prophètes de Baal d'un côté et Élie. Et puis entre Baal et Dieu. Bon, vous connaissez l'histoire, on vient de la dépeindre très rapidement. Mais il y a le récit qui précède et qui est crucial, surtout par rapport à ce que Élie vit là dans sa détresse. Dans ce récit qui précède, il y a une rencontre. Élie rencontre un bonhomme, un certain Abdias, qui a une fonction qui n'est pas évidente, surtout à cette époque-là. Il est l'intendant du palais royal. Bon, c'est important, mais cet Abdias, c'est un homme humble et discret, un homme de foi, qui travaille auprès d'Akab, qui le sert tous les jours. Donc déjà, lui reste fidèle à Dieu. Mais Abdias ne s'est pas arrêté simplement à sa fidélité à Dieu. Abdias réalisa un exploit. Pas de héros, hein. C'est un espèce de héros qui se cache, un anti-héros presque. Abdias réalisa l'exploit de cacher 100 prophètes dans deux grottes, donc deux groupes de 50, en les nourrissant, en leur apportant tout ce dont il avait besoin. Autrement dit, il a dû bidouiller les comptes, hein, je pense, pour arriver à provisionner. À moins qu'il ait fait sur ses propres deniers, je ne sais comment il s'en est sorti, mais il a pris soin de 100 prophètes de Dieu. Et quand la Bible dit cela, c'est comme dans beaucoup de passages hein, de l'Ancien Testament, pardon, faisons simple, souvent est désigné un homme, par derrière cela souvent peut désigner toute une famille aussi. Donc ce n'est pas juste 100 personnages, c'est peut-être quelques centaines de personnes, de femmes, d'enfants, d'adultes, de vieillards, que Abdias cache, protège, nourrit et donc a sauvé de la vengeance et de la haine à la fois d'Akab et de Jézabel. Et cela est dit avant le mont Carmel, cela est dit avant que Élie ne fonce vers le désert pour crier sa solitude. Il y a Abdias, il y a ces personnes-là qui subsistent aujourd'hui. Mais alors, quelles leçons en tirer pour nous dans nos existences qui sont certainement moins périlleuses et tourmentées que celles d'Élie? Nous n'avons pas a priori aujourd'hui de roi Akab en place sur le trône. Autre question, mais toujours dans la même direction, quelle sagesse ce récit d'un homme ordinaire que fut Élie nous enseigne pour nous aujourd'hui au quotidien? Je vous propose une réponse, ou un ensemble de réponses. Comme je vous l'ai dit, le récit biblique nous montre que Élie n'était pas seul. Abdias, déjà, en était la preuve, sans compter sur tous ces prophètes qui étaient cachés dans des grottes. Dieu, ainsi, lui avait déjà donc donné la réponse à ce sentiment de solitude qui devait déjà être là. Alors c'est vrai que son cheminement, sa manière de vivre, etc., l'avait coupé de beaucoup de choses. Et on peut le comprendre. Mais Dieu lui avait déjà donné cette réponse à ce sentiment de solitude qui va aller grandissant dans son ministère jusqu'à cette victoire de Dieu. Et c'est là où on voit parfois le paradoxe que nous avons. Nous pouvons voir Dieu mener des victoires et nous faillir dans ces moments-là presque, ou juste à la suite de cela. Et si pour nous, lecteurs de la Bible, il est évident que la solitude d'Élie n'était qu'un sentiment douloureux, témoignant d'une forme d'aveuglement chez lui, surtout n'allons pas croire que nous sommes exempts de ce genre de défaut. Nous aussi, parfois, nous voyons d'une manière un peu brouillée les choses. Et nous pouvons crier à lui sans voir ce que Dieu fait à côté, ce qu'il nous a déjà montré et dit. Il nous arrive certainement qu'individuellement ou collectivement, en tant qu'Église, nous soyons aussi parfois à chercher tant le secours ou simplement même une voix forte et audible de Dieu dans des moments particuliers, et pas forcément que des moments douloureux d'ailleurs, que nous oublions que Dieu nous a peut-être déjà manifesté sa volonté, nous a fait déjà don de sa réponse. Et bien que nous n'allions pas, nous, forcément jusqu'à la cime de l'Horeb, vous pouvez y aller hein, pour aller crier, vous verrez si ça marche. Mais nous cherchons, nous aussi, de temps à autre, à grimper cette montagne, ne serait-ce que symboliquement, ne serait-ce que dans notre cheminement spirituel. Et nous imaginons parfois que Dieu n'arrive pas à nous parler suffisamment fort. Ça paraît complètement absurde de le dire ainsi, mais c'est ce que parfois nous pensons, sans nous en rendre compte. On crie à lui, bah « Dieu, je t'entends pas, vas-y quoi !» On n'oserait pas le dire ainsi. Mais mine de rien, notre pensée fait chemin parfois dans cette direction-là. Et c'est ce qu'a fait Élie. Et c'est pour ça que Dieu lui a fait une sacrée démonstration. L'ouragan, qu'est-ce qu'il y a après? J'en oublie l'ordre exact, mais toutes ces choses que Élie espérait voir Dieu se manifestant dans tout ça, eh bien, ça n'est pas là-dedans qu'il va lui dire « Je suis ton Dieu ». Ça sera dans tout ce qu'Élie n'attendait pas. Et c'est ce qui va d'ailleurs le consoler et le restaurer. Oui. Le souci, chez Élie comme chez nous, vient du fait que nous savons parfois nous faire sourds momentanément. Ce n'est pas Dieu qui ne parle pas assez fort, c'est nous qui n'arrivons plus parfois à l'écouter. Et il est crucial de se rappeler que Dieu, jamais au grand jamais, ne joue à cache-cache avec nous. Il est important de croire que Dieu est tel que Jésus l'a révélé. Un Dieu qui se fait présent, qui a le désir de siéger en nous par la présence de son esprit. Et c'est pas rien. Il est là. Il est là. Quand je dis il est là, il est là. Il n'est pas à côté et puis il faudrait vraiment que je fasse attention. Il est juste là. Il n'y a pas plus proche. Et c'est pas facile quand même. Hein. C'est parfois comme dans les couples. On choisit de vivre ensemble, on est tellement proche que parfois on n'arrive plus à s'entendre. C'est bizarre, hein ? C'est là où on voit toute la difficulté de nos cœurs. Mais un tel Dieu nous montrera où est le problème, s'il y a problème. Si nous prions et cherchons à être éclairés avec sincérité, il nous le dira. Et entendez bien que jamais Dieu ne traitera les choses à la légère avec nous. Il nous aime. Nous sommes importants pour lui, nous avons de la valeur pour lui. Jamais il va prendre les choses un peu à la légère et vous dire « Oh, c'est bon ton truc là ». Ça, nous serions capables, nous, de le faire avec lui. Mais lui, jamais. Dans notre relation avec lui, il se peut que les raisons pour lesquelles nous ne recevons pas de paroles spécifiques, claires, audibles, particulières, etc., etc., à nos questions, soient à regarder ailleurs que dans le fait que tout peut-être nous ne lui ferions pas exactement ce qu'il veut, et donc il serait un peu en colère. Parce que si c'était le cas, de toute façon, il le ferait savoir, tôt ou tard, si nous étions en train de ne plus lui faire plaisir. S'il ne se fait pas entendre, c'est que peut-être c'est autre chose, et c'est très, très souvent le cas. Aussi, entendez bien que l'une des raisons majeures, si ce n'est pas la première, quand nous n'arrivons pas à entendre Dieu qui parle suffisamment fort, pour le prendre de la mauvaise façon. C'est qu'en général, Dieu veut que nous soyons bien impliqués dans le choix de notre cheminement, d'une personnelle, mais aussi en tant qu'Église, de ce cheminement communautaire, de notre volonté de le servir ensemble. Oui, Dieu veut que nous soyons bien impliqués dans ce qu'il nous a remis. Dans cet ordre de marche que parfois on entend appeler vision et qui nous amène ensemble à vivre et à porter l'évangile aujourd'hui et ici. Un peu à l'image du témoignage que nous avons entendu et je remercie les frères qui l'ont fait. Cela ne signifie donc pas qu'il n'est pas avec nous quand nous ne l'entendons pas. Bien au contraire. Dieu, s'il se fait moins audible, et je dis bien moins audible, pas forcément silencieux, quoique ça peut être très proche. Vous voyez comment Élie a entendu Dieu. Le mot hébreu est rare, je crois qu'il est unique, il se trouve là. Donc il est difficile à traduire, il n'y a pas d'autres éléments de comparaison. Mais les traducteurs disent de bruissement léger, etc. C'est quelque chose qui se perçoit à peine. Oui, quand Dieu se fait moins audible, c'est qu'il veut nous inviter à développer, à éprouver notre caractère. Et c'est pour notre bien qu'il le fait ainsi. C'est pour le bien d'Élie aussi qu'il l'a pris à contre-pied. Il désirait qu'Élie grandisse. Et oui, même Élie avait besoin de grandir en maturité. Je ne vais pas dire qu'il était comme un enfant, mais à ce moment-là, et sur ce point-là, Élie avait besoin de grandir. Oui, Dieu veut éprouver notre caractère et c'est pour notre bien. Il désire nous laisser prendre des décisions, même quand elles nous semblent importantes. Car Dieu nous appelle à être des citoyens responsables de son royaume, pas des petits-enfants qui demandons à chaque fois « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» alors que sa volonté sur énormément de choses, si ce n'est sur tout, est limpide et claire. Car elle nous est déjà confirmée et dite. Le Seigneur l'a déjà exprimé à ses disciples. Aussi, mes frères, mes sœurs, n'en oublions pas que Dieu s'exprime au quotidien et nous signifie son soutien par des choses parfois anodines. Et ces choses anodines, ce sont ces bruissements aussi parfois légers. Gardez donc à cœur que comme avec Élie, jamais Dieu ne nous oublie. Bien au contraire, et c'est là encore la dernière conclusion que je tire de tout cela, Dieu a toujours soif de nous parler, au jour le jour. Jamais il ne nous lâche. Il n'est jamais tenté de nous laisser sur le carreau, quand bien même nous, nous serions affaiblis, incapables d'aller plus loin. Car Dieu a toujours le désir de nous utiliser. Dieu a toujours le désir de nous inviter à continuer de marcher à sa suite pour avoir le privilège renouvelé de participer à l'avancée de son royaume aujourd'hui et ici. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie. Une fois qu'il lui a susurré je ne sais quoi, enfin le je ne sais quoi nous l'entendons après, il lui dit « tu vas repartir, tu reviens là où d'où tu es venu ». Et en lui montrant à quel point il est souverain, ce cher Akab, alors il ne lui dit pas ça directement, mais il lui fait entendre qu'il va y avoir une suite, et ça ne sera pas Akab ou sa descendance, ça sera un autre roi. Bon, il ne sera pas forcément meilleur, malheureusement. Et surtout pour lui, Élie, il lui fait entendre, tu iras aussi oindre un certain Élisée, tu le trouveras là-bas, il c'est le fils de machin, là, donc c'est facile à trouver, c'est comme l'adresse. Hein. Mais c'est pour dire à Élie, toi qui te crois seul, sache qu'il y a déjà un serviteur qui est prêt à prendre ta suite. Et en plus, on le sait après, il va t'accompagner. Donc Élie, il va déjà être accompagné de quelqu'un qui en plus reprendra le flambeau. Quelle réponse formidable pour Élie. Lui qui se croyait être seul. Voilà. Je m'arrête là. Je vous invite simplement à faire silence. Et peu après cela, j'inviterai mon frère Nicolas, à venir partager sur le temps que nous avions présenté déjà et que nous avions demandé de remettre dans la prière, puisque hier matin, conseil et équipe pastorale se sont arrêtés un instant. D'ailleurs, nous avons médité sur ce texte. Ce n'était pas un hasard. Si aujourd'hui je le prêche et en même temps si nous l'avons partagé ce matin, hier matin, mais voilà, Nicolas nous donnera un témoignage. Mais je vous invite pour l'instant à faire silence pendant ne serait-ce qu'une minute pour méditer sur ce texte.